Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Mon invitée aujourd'hui est thérapeute. Elle est venue au micro d'Antenne Doc pour nous parler de son livre « L'inconscient et l'éveil » en auto-édition que vous pourrez trouver chez lulu.com. Il s'agit d'Amaya Martré. Bonjour Amaya.
Bonjour, bonjour Daniel et bonjour à tous.
Tout d'abord, merci Amaya d'avoir pris contact pour pouvoir parler ouvertement à tout le monde de ce qui est important pour toi et que tu as mis avec tant d'amour dans ce livre. L'inconscient et l'éveil, c'est un grand mot. C'est une grande définition. On s'attend à beaucoup d'intériorité, c'est ça ?
Oui, ben en tout cas, le livre, c'est vraiment le résultat de pratiquement 30 années de recherche, de travail, de découverte, d'aventure au sein de ma propre histoire et de ma propre intériorité. Et pour moi, c'est très important de partager ça, parce que ce que j'ai vécu, je sais que je ne l'ai pas vécu que pour moi. Ça, c'est sûr.
Alors, j'ai eu la chance en avant-première d'avoir eu l'épreuve en sous format PDF. Et à l'intérieur, finalement, on constate que tout a un point de départ. Il s'agit d'un rêve. Un rêve qui est venu au fond de toi. C'est même pas un rêve de sommeil. C'est un rêve beaucoup plus profond, beaucoup plus interne.
Alors, tu appelles ça un rêve. Pour moi, c'est plutôt un message. C'est vrai que c'était dans un état proche du rêve, mais proche aussi entre l'éveil et le rêve, je vais dire. Donc, je vais raconter comment tout a démarré. C'est-à-dire que dans cet espace, je me suis retrouvée à descendre des marches. Et je me suis retrouvée comme si j'étais dans un bar avec des lumières bleutées. Et je me suis assise à une table, et à cette table, en face de moi, il y a une personne féminine. Je n'ai pas vu son visage, mais elle m'a dit très nettement, « Tes problèmes affectifs vont se transformer en dons de guérir. » À cette époque-là, problème affectif, je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Je pensais que je n'avais pas de problème particulier, et surtout affectif, je ne comprenais pas. Et pourtant, à partir de ce moment-là, ça a été vraiment le départ d'une aventure dans mon inconscient. C'est-à-dire que je me suis mis à me retrouver dans des états très particuliers où je me retrouvais dans mes souffrances d'enfant. Et tout d'un coup, je pouvais me retrouver, j'avais 3 ans, j'étais même un bébé, j'ai pu remonter jusque-là dans des détresses vraiment de nourrisson. Et ce processus qui s'est enclenché ne s'est jamais arrêté. Et c'est comme si tout mon inconscient, en fait, se mettait en lumière et remontait à la surface. Voilà. Et donc, c'est ce livre, ça va raconter ce que j'ai découvert à travers ce voyage que parfois je qualifie de chamanique, dans le sens que ce qu'il y a de chamanique, c'est le fait de se retrouver dans des états qui n'existent pas dans la conscience ordinaire, j'ai envie de dire. C'est vraiment des états particuliers qui sont très intimes et dans lesquels il n'y a même pas de mots. C'est simplement des états, et ce sont des états surtout émotionnels.
Alors, tu parles essentiellement de conscience et d'inconscience, finalement, et d'où le titre peut-être de ton livre, « L'inconscient et l'éveil », c'est ça ?
Oui, alors l'inconscient et la conscience, c'est pas du tout la même chose. Pour moi, l'inconscient, si on donne une définition, ça va être cette partie de nous. Bon, on va la définir comme une partie, bien que ça soit pas matérialisé, quoi. C'est en tout cas, c'est une partie de nous dans laquelle est enfouie toutes nos souffrances. C'est-à-dire que quand on est enfant, c'est vrai que ça démarre bien sûr à la naissance, à l'enfance, voire in utero. Tout ce qu'on peut vivre émotionnellement, ça ne disparaît jamais. C'est-à-dire que ça reste à l'intérieur de nous et ça reste dans ce réservoir qu'on appelle inconscient. Bon, c'est ce que disent aussi les psychanalystes, les psychologues, etc. Là où moi, je diffère un peu, et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, notre inconscient ne nous protège pas. Bien au contraire. Notre inconscient, en fait, ça contient des bombes à retardement et qui vont attirer dans notre vie des événements, des personnes qui vont nous faire revivre en boucle, en permanence, en fait, les souffrances qui ont été inscrites. Comme je dis, c'est comme si on a des tatouages émotionnels, en fait, surtout entre 0 et 7 ans, hein, ça c'est très important, parce que c'est là où se forment vraiment tous nos corps, c'est là qu'on se construit. Donc toutes les blessures qui font partie de notre construction, ce sont des blessures qui sont beaucoup plus marquantes. Après, bon, je le dirai un peu plus tard, mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas parce que nous avons des tatouages émotionnels ou des traumatismes qu'on ne peut pas s'en sortir. Au contraire, moi, ma quête, en fait, c'est comment on fait pour sortir de cette souffrance qui est inhérente à l'humain.
Finalement, ce livre, c'est aussi un manuel.
Tout à fait.
Un manuel vers un travail personnel. On sait très bien que un mieux-être ou un éveil ne se fait pas en un claquement de doigts, qu'il s'agit aussi de tout un travail d'une vie. Je crois savoir que tu as mis plus de 30 ans, en fait, avant de pouvoir coucher tout ça sur papier. Ou presque.
Oui, pas tout à fait 30 ans. En tout cas, je déteste le mot travail, parce que pour moi, c'est une histoire d'amour avec soi-même. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une seule façon de traiter la souffrance, c'est l'amour. Et on ne traite pas une souffrance en travaillant. Parce que déjà, si on fait cette approche de dire « j'ai un travail à faire sur moi », ça veut dire ben, « franchement, je ne suis pas quelqu'un de correct ». Alors qu'il ne faut surtout pas, pour moi, commencer comme ça. Donc pour moi, je ne travaille pas, je fais un chemin vers la souffrance pour tendre la main à la souffrance et pour transformer cette souffrance.
C'est un chemin initiatique, finalement, tout ça.
Tout à fait. Oui, c'est un chemin initiatique, oui.
Alors, on a vu dans la base du livre « L'inconscient et l'éveil », la définition assez large de l'inconscient. Il y a aussi cette importance des charges émotionnelles qui sont véhiculées au cours d'une vie, de vie en vie même aussi, on peut le dire comme ça. Et je sais que tu l'abordes dans ton livre, que tu accordes une place très importante aux différentes charges émotionnelles, je dis bien aux différentes parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Aujourd'hui, on connaît essentiellement la dimension de la charge mentale. La charge mentale, on entend parler un petit peu à toutes les sauces, mais la charge émotionnelle, on la met facilement de côté en nous apprenant et en transmettant qu'il faut la gérer. Alors j'invite nos auditeurs peut-être à se rapprocher de l'émission « La non-gestion des émotions » qui a été réalisée par Anton Doc il y a de cela quelques mois. Mais pour en revenir aussi à toi, Maya, cette charge émotionnelle, ces charges émotionnelles, comment est-ce que tu pourrais les définir ?
Alors déjà, pour rentrer en contact avec notre inconscient, puisque par définition, puisque c'est inconscient, on ne le connaît pas, le fil d'Ariane, ça va toujours être nos émotions. C'est-à-dire que chaque fois que je ressens, alors plutôt évidemment une émotion qui fait souffrir, négative, comme la tristesse, la colère, la peur, etc. Chaque fois que je ressens une émotion, en fait, cette émotion, elle va toujours me parler de moi. Et souvent, ce qu'on a tendance à faire, quand on ressent une émotion, c'est d'accuser la personne ou les circonstances qui ont provoqué cette émotion. Et ça, c'est déjà la première erreur, et ça fait partie des programmes dont je parlerai tout à l'heure, que j'ai identifié aussi. Parce qu'en fait, dès qu'on a une souffrance émotionnelle, on a tendance à la fuir tant qu'on peut, avec toutes les possibilités qu'on a, que ce soit, bien sûr, les addictions, l'alcool, les drogues, etc. Mais il y a aussi le travail, il y a aussi la musique, la fuite, le sport. Enfin, tout ce qui peut faire qu'on ne ressente surtout pas notre souffrance. Et pourtant, moi, j'ai découvert que quand on fait l'inverse, quand on est en accueil de la souffrance, il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que cette souffrance, à partir où on va l'accueillir et où on va aller jusqu'à pleurer, parce que c'est vrai que pleurer, c'est très important, je vais expliquer pourquoi. Disons que la souffrance, elle disparaît. Et c'est aussi simple que ça. Mais on met une telle énergie à lutter contre soi-même, c'est-à-dire contre nos propres souffrances, contre nos propres émotions, que c'est cette lutte qui va créer, comme tu disais, ces charges émotionnelles. Alors, c'est quoi les charges émotionnelles ? C'est-à-dire, c'est qu'à force de refouler ma colère, notre colère, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, cette colère, elle va sortir comme un diable qui sort de sa boîte, sur, en général, les personnes qu'on aime, parce que c'est les personnes qui sont les plus proches de nous. Et c'est ça qui va se déverser, en fait, sur les personnes qu'on aime. Et ces charges émotionnelles, donc on a bien compris, ce sont des émotions qui n'ont pas été exprimées. Et en plus de ça, je me suis rendu compte qu'elles ont une particularité, ces charges émotionnelles, c'est qu'elles vont éveiller chez l'autre une charge émotionnelle équivalente.
Par effet éponge ?
Par effet miroir, ou je ne sais pas, c'est comme ça que ça marche. Donc c'est pour ça qu'il y a des disputes, c'est pour ça qu'il y a de la discorde, c'est pour ça, enfin, je donne des exemples dans le livre, c'est pour ça que, par exemple, dans un couple, c'est souvent comme ça, ou dans la famille, une personne, elle va avoir une charge émotionnelle qui ressort, et la personne en face, au lieu d'accueillir la charge émotionnelle de la personne, ben, ça va réveiller une souffrance chez elle. Donc ça fait souffrance plus souffrance égale conflit. Voilà ce qui se passe la plupart du temps. Donc les charges émotionnelles, pour répondre à ta question, c'est ça, c'est toutes ces émotions refoulées, et elles ont une puissance extraordinaire. Voilà, tout ce qui est refoulé a énormément de puissance. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est que plus les souffrances et les traumatismes sont refoulés, en fait, c'est comme si c'était... Alors moi je l'appelle comme ça, c'est un peu difficile de mettre un mot dessus, ça crée une force électromagnétique. Puissante, extrêmement puissante. C'est-à-dire que plus c'est intime, plus c'est profond, plus c'est refoulé, plus c'est secret, plus c'est ancien, plus cette charge électromagnétique va être importante. Et cette charge électromagnétique, en fait, elle a la capacité, enfin, je ne sais pas si c'est une capacité ou si c'est au contraire une calamité, c'est d'attirer des circonstances et d'attirer des personnes qui vont faire réagir la souffrance, qui vont tout le temps nourrir cette souffrance.
C'est la donc, puissance magnétique.
Voilà. Donc c'est vrai que par rapport à cette souffrance, ce que je propose, il y a vraiment deux solutions. C'est soit on est dans la fatalité, c'est-à-dire parce que j'ai souffert enfant, toute ma vie, ben je vais vivre des souffrances justement à cause de cette capacité électromagnétique. Soit je vais essayer de mettre de la conscience là-dedans, d'accueillir cette souffrance, de libérer cette souffrance. Et à ce moment-là, on va arrêter la fatalité.
C'est ce qui s'appelle transmuter, finalement.
C'est exactement ce qui s'appelle transmuter. C'est-à-dire, j'emploie vraiment ce mot de transmutation alchimique, parce que c'est quoi l'alchimie ? C'est transformer le plomb en or. Donc on va dire que le plomb, c'est toutes nos souffrances, hein, représente toutes nos souffrances, et que l'or, ben, c'est l'amour, en fait. Parce que les souffrances qui sont transmutées, qui sont accueillies, qui sont aimées, comme je dis, une souffrance, quand elle est aimée, elle se transforme en amour. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est que, en fait, j'ai bien conscience que chaque être humain ne peut pas faire le chemin que j'ai fait. Moi, s'il m'a été donné de faire ce chemin, je pense que c'est aussi pour aider les personnes. Et ce qui m'a été dit aussi, pour me donner la force de continuer à des moments où c'était vraiment très très dur, voire insupportable, c'est que j'ai eu ce message, ce que tu le fais aussi pour les autres. C'est-à-dire que quand une personne va visiter, mettons, une blessure d'humiliation, va accueillir cette blessure, va lâcher la charge émotionnelle, souvent par des larmes, mais finalement, c'est comme si ça mettait de la lumière dans l'humiliation que vit chaque être humain. Ce que j'ai découvert aussi, moi, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il n'y avait que moi qui souffrais. J'étais dans une situation familiale particulière. Je me disais, tout le monde est normal et moi, je souffre. Et puis un jour, je me suis rendu compte, non seulement que tout le monde souffrait, mais qu'en plus de ça, nous avions absolument tous les mêmes souffrances et les mêmes réactions à ces souffrances. Et c'est là où j'ai compris que justement, derrière ça, il y avait des programmes d'ailleurs.
Alors, ces programmes, on va y venir justement, tu les définis en programmation de SAP, hein, de déconstruction.
Programme de SAP,
programme
ce sont des programmes de SAP.
Des programmes de SAP, et saper quelque chose, c'est vraiment couper à la base.
Oui, c'est ça.
Et ces programmes, comment est-ce que tu pourrais les définir ? Sans trop en dire, bien sûr, pour laisser quand même aux auditeurs l'envie d'aller chercher dans ton livre.
Oui, non, mais je peux dire, parce que ça me semble très important, déjà comment j'ai découvert qu'il y avait des programmes de SAP. C'est que je me suis rendu compte que chaque personne qui était victime d'une maltraitance ou d'une violence, ou la personne, elle se sentait honteuse et humiliée. Là, je me dis, il y a quand même quelque chose qui n'est pas du tout normal, parce que si une personne doit se sentir honteuse et humiliée, c'est bien le bourreau, c'est bien la personne qui fait du mal qui devrait être honteuse. Et c'est parti de là, ma recherche. J'ai dit, il y a quelque chose de pas normal, là. C'est-à-dire qu'en chacun de nous, Il y a des programmes qui fonctionnent, comme fonctionne l'instinct pour les animaux, qui font que, quelle que soit la personne qui se fait agresser, elle va se sentir humiliée. Et ça, c'est du 100%. Voilà. Et tous les programmes de SAP que nous avons à l'intérieur de nous, et si chacun regarde un peu en soi, enfin lui, ben, chacun va trouver que oui, effectivement, ben, y a des moments où je me sens nulle, où je me sens pas reconnue, je me sens inutile, je me sens... Enfin, en fait, tous ces programmes de SAP, c'est tout ce qui nous fait nous sentir pas à la hauteur, quoi.
Ces programmes qui nous donnent ce sentiment d'être inférieur dans une situation ou
absolument.
Par rapport à une personne.
Absolument. Et je pense que ça, en étant honnête avec soi-même, hein, ce qui est quelque chose de très difficile, hein, moi j'ai mis très très longtemps justement, c'est tout ce parcours de presque 30 ans qui m'a appris à être honnête avec moi-même, parce que c'est en étant honnête avec moi-même et avec ce que je ressentais que je pouvais me sentir bien. Sinon je me sentais hyper mal, c'est-à-dire avec des grosses angoisses. J'arrivais plus à vivre, quoi. Et dès que j'étais dans ma vérité, ça y est, ça allait mieux. C'est comme si on me montrait, là, tu es dans l'harmonie de la vie, quoi, dans la vérité.
Ce que dans d'autres thérapies, on peut parler d'alignement.
Absolument.
Ça aussi.
Absolument, oui, oui.
Donc, finalement, tous les mots se rejoignent.
Oui.
Toutes les interprétations se rejoignent. Ce qui est important là-dedans, c'est toute cette vérité qui est la tienne, que tu as mis par écrit, que tu transmets avec toute ta bienveillance et toute ta générosité à ceux qui vont souhaiter lire ton livre. Et dans ces programmes de SAP, tu parlais notamment de la blessure d'humiliation, mais il y a d'autres blessures que l'on peut travailler.
Ah oui, mais il y a toutes les blessures. Donc évidemment, il y a les 5 blessures qui sont donc la trahison, l'humiliation, l'abandon, l'injustice et le rejet.
Voilà, donc c'est vrai que ce sont des programmes généraux, propres à chaque être humain.
Mais c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'on a tendance aussi à s'identifier à ces blessures. Parce que quand on ressent, mettons, la blessure d'humiliation, il va y avoir un programme qui va nous faire réagir à cette blessure d'une façon particulière. Bon, pour l'humiliation, on dit que c'est le masque du masochiste. Il y a comme ça des masques pour chaque blessure, mais pour moi, ce ne sont pas des masques, ce sont des programmes qui nous empêchent, en fait, d'aller guérir ces blessures. Et moi, j'affirme que toutes les blessures sont guérissables, c'est la bonne nouvelle. Mais que pour les guérir, il faut, un, en prendre conscience, et surtout ne pas s'identifier à ces blessures, parce que ce qu'il y a de pervers dans ces programmes de SAP, c'est qu'on a tendance à croire que c'est ce que nous sommes, en fait. Il y a une identification avec les programmes de SAP.
Mais justement, là, tu dis qu'on a tendance à penser que c'est ce que nous sommes,
oui.
Cet amalgame d'informations. Mais au final, si on enlève tout ça, qu'est-ce que l'on est? Est-ce qu'on peut avoir une réponse ou ça reste un parcours individuel, une avancée, un cheminement purement propre à chacun?
Alors, tu vas un peu vite, mais tant pis, on va aller vite. Comment dire? Nous, en tant qu'êtres humains, dans cette matrice, on va l'appeler comme ça, on est soumis à tout ce qui est division. C'est-à-dire, ce que je viens d'expliquer, ça crée la division déjà entre les êtres. Ça, c'est la première chose. Après, ça crée aussi la division à l'intérieur de nous-mêmes. Ça crée la division avec tout ce qui est vivant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en souffrance, la souffrance, elle crée la séparation. Quand je suis en souffrance, je ne vois pas l'autre. Je ne ressens pas les animaux, je ne ressens pas le vivant, je ne ressens pas l'unité. Alors qu'en fait, si on enlève la souffrance, on se retrouve simplement dans cet état d'éveil qui est un état d'unité. Et c'est quoi l'unité? C'est faire un avec la vie. C'est faire un avec l'arbre, avec la fleur, avec Daniel, avec les nuages, avec la terre, avec l'univers. C'est ça. C'est pour ça que mon livre, ça s'appelle « L'inconscient et l'éveil ». Alors, je ne suis pas encore arrivée à l'éveil, mais disons que je peux avoir des fois comme des petits moments de grâce, comme ça, parce que, par exemple, ça me le fait dans la nature. J'ai un contact avec la nature très puissant, et je suis dans la nature, et tout d'un coup, ça y est, c'est bon, j'y suis. Je suis dans l'unité. Donc, ce livre, c'est aussi pour amener chacun à atteindre cet état de complétude et de... qui est la libération de l'humanité, parce que pour moi, l'humanité, on est vraiment un réservoir à souffrance, quoi.
Alors, en parlant de souffrance, il y a quand même un passage qui est très important aussi, c'est la perversion narcissique. On en entend parler, souvent entre deux feuilles de magazine ou alors entre deux actus sur une conférence sur YouTube, ou pour ceux qui sont beaucoup plus à la recherche de sujets, on va peut-être trouver des auteurs ou des conférenciers bien spécifiques. Cette perversion narcissique, c'est aussi un sujet qui est très important pour toi. Qu'est-ce que tu pourrais en dire ?
Alors, ce que je peux dire de la perversion narcissique, c'est ce que j'ai découvert, c'est que, alors moi j'appelle ça les forces de l'ombre, pour ne pas dire autre chose, c'est qu'il y a des forces, en tout cas involutives, qui ont une volonté de maintenir l'humanité dans la souffrance, comme si l'humanité était un réservoir, un garde-manger de souffrance pour ces forces-là. Donc ces forces-là, elles ont plusieurs armes contre nous, quoi, en fait, enfin, pour nous maintenir dans la souffrance, alors que, pourtant, l'être humain, il est, pour moi, c'est un être puissant et c'est un être d'amour, hein, à la base. Hein. C'est ça qu'on doit retrouver avec l'éveil. Et donc, la perversion narcissique, ce sont certains êtres humains qui sont investis, alors je vais dire, d'entités négatives, de temps en temps, voire tout le temps. Et ces entités négatives, en fait, à travers l'être humain, vont se nourrir de la souffrance des autres. Donc à partir du moment où il y a des êtres qui se nourrissent de la souffrance des autres, parce qu'à ce moment-là, elles en retirent beaucoup, beaucoup d'énergie, ben, en fait, elles vont tout faire pour piéger les autres personnes et les faire souffrir. Et plus elles peuvent les faire souffrir, plus elles sont dans une captation d'énergie, et voire dans une jouissance et une puissance extrême. Voilà. Et ce que je veux dire aussi par rapport à ça, c'est que dans la perversion narcissique, ce que je me suis rendu compte aussi, et ça, on peut faire des petites expériences, c'est qu'effectivement, quand on fait du mal à quelqu'un, parce qu'on est tous capables de faire du mal, il y a des programmes aussi qui se mettent en route. Premier programme, l'amnésie. On ne se rappelle pas ni de ce qu'on a dit, ni de ce qu'on a fait. Quand ça fait du mal à l'autre. Et en même temps, faire du mal à l'autre, si c'est fait intentionnellement, ça donne de l'énergie. Enfin, il m'a été donné, en tout cas, de ressentir ça. Voilà. Après, c'est peut-être très personnel.
On va peut-être inviter les auditeurs à favoriser les intentions bienveillantes. Alors moi, les essais bienveillants.
Bien sûr. Moi, ce que j'inviterais surtout les auditeurs, c'est à prendre conscience qu'on n'est pas au pays des bisounours. Que c'est pas, tout est beau, tout est magnifique, oui j'aime, tout va bien, non. Il y a sur Terre beaucoup, beaucoup d'êtres qui sont malveillants, et d'ailleurs il y en a beaucoup dans ceux qui ont des postes puissants sur la Terre, et donc c'est important de le voir, et c'est important d'avoir du discernement, parce que justement quand on est victime de ces personnes-là, ben, les programmes de sable dont j'ai parlé tout à l'heure se mettent en route, c'est-à-dire qu'on va de suite se sentir nul, pas à la hauteur, inférieur. Et ces personnes-là, qui ont c'est aussi une pathologie, on va dire, eh ben, vont jouer de ça. Et la personne va se retrouver vraiment le jouet de ces forces négatives. Donc voilà pourquoi j'ai consacré un chapitre à la perversion narcissique. C'est parce que je pense qu'il est très important d'être conscient que sur la Terre, il y a aussi le mal.
Le message est passé. De la perversion narcissique, tu parles également des conditionnements de vie, des conditionnements relationnels, d'éducation, de croyances et tant d'autres. Comment es-tu arrivée à les identifier, ces conditionnements ?
Ben, je suis arrivée à les identifier parce que déjà, je suis une personne qui a beaucoup de mal à être conditionnée. Donc déjà à l'école, des choses qui ne me plaisaient pas. Et je n'aime pas trop qu'on m'impose une façon de penser, de croire. Et je suis née un petit peu avec une conscience qui me fait voir les choses peut-être différemment. Et aussi dans une famille où je n'ai pas appris à obéir, mais j'ai appris à me débrouiller toute seule. Donc tout ça, c'est des choses qui m'ont aidée. Donc les conditionnements dans lesquels on baigne dès la petite enfance, c'est déjà à l'école le fait d'être noté, par exemple, c'est-à-dire il y en a un qui est premier de la classe, mais du coup il y en a un, c'est le dernier, et puis il y a tous les autres qui, de toute façon, à partir du moment où ils ne sont pas premiers, ben, ça va aller nourrir justement ces programmes de SAP, parce que ben, si je ne suis pas premier...
C'est déjà, la compétition, finalement.
Voilà, déjà, tout ce qui est compétition. Après, il y a aussi tout ce qui est le culte de l'apparence dans nos sociétés, où il faut être jeune, beau et en bonne santé. Tout ça, ça enlève tellement de richesse, et, parce que quelque part... on est tous soumis à ces conditionnements, qu'on le veuille ou pas, tant qu'on n'y met pas vraiment la conscience, c'est ça. C'est pour ça que cette histoire de conscience, c'est vraiment le plus important, c'est se poser des questions sur tout ce qu'on nous présente, hein, surtout en ce moment, et que c'est plutôt d'avoir un chemin qui amène à avoir confiance en soi, en qui je suis. Et chaque personne a une couleur particulière, a des qualités à donner au monde, quoi. Tout comme la nature qui est dans la diversité, et que d'ailleurs on essaye de formater de la même façon. Les êtres humains sont dans la diversité, et puis on est fait pour se compléter, pour s'aimer, pour s'enrichir. Voilà, c'est-à-dire ça ouvre des portes à une immense richesse.
Et dans cette immense richesse, dans l'évolution ou dans l'involution, il y a cette dimension des trames énergétiques, comme tu le définis, les trames de souffrance, les trames de non-lumière, mais il y a aussi des trames de lumière, quelque part.
Alors, je vais expliquer, c'est qu'en fait, entre nous et ce que j'appelle le champ unifié de conscience, ou qu'on peut appeler le divin, ou qu'on peut appeler le nirvana, enfin, je ne sais pas, moi je l'appelle le champ unifié de conscience. Pourquoi nous ne sommes pas justement dans cette unité? C'est parce que ces forces involutives ont mis en place un système qui m'est apparu en fait. Ce dont je parle, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose que j'ai découvert. C'est-à-dire j'ai découvert que déjà, les êtres humains entre eux, tant qu'on est en souffrance, on est vecteur de souffrance pour l'autre. Donc si je souffre, à l'endroit où je souffre, je vais faire du mal à l'autre. Et on est tous comme ça, personne n'est à l'abri de ça. Et en fait, toutes les souffrances qui sont donc inconscientes, donc qui ne sont pas dites, qui sont, elles vont nourrir une trame. J'ai vraiment visualisé ça comme une trame, comme un filet en fait. Et cette trame, c'est comme si ça fait une barrière à ce champ d'unité. Voilà. Et c'est vrai que depuis les années 70, il y a cet élan de l'humanité vers l'éveil, on parle de ça, de l'éveil des consciences, de l'éveil de l'humanité, etc. Et ces forces involutives, elles ont trouvé quelque chose d'assez génial, entre guillemets, et très très pervers, c'est ce que j'appelle la fausse lumière. Et en fait, cette fausse lumière, ça va créer aussi une trame qui va être comme un plafond pour accéder à l'unité. Donc la trame de souffrance est alimentée par la souffrance, nous avons compris, et la trame de fausse lumière, elle est alimentée par les illusions de beaucoup de concepts New Age qui sont, par exemple, il ne faut pas parler des sujets qui fâchent, il faut parler que de l'amour, il faut être dans l'amour, et si tu es dans l'amour, tu vas réussir à justement à atteindre cet état d'unité, et tout ça avec un petit mépris pour les gens qui souffrent encore. Et moi, c'est vrai que dans mon parcours, ben, j'ai été amenée à faire des stages, à rencontrer des personnes qui enseignaient un peu ça. Et je ne me suis jamais retrouvée là-dedans. Donc évidemment, premier réflexe...
Culpabilisation.
Oui, voilà, c'est moi, j'y arrive pas, je ne suis pas à la hauteur, etc. Donc on a compris que là, je suis rentrée dans mon programme de SAP. Et puis après, ben, j'ai quand même cette guidance en moi, tout le temps, j'ai toujours une guidance au travers de ces années, qui me dit, mais fais confiance un petit peu à ce que toi tu ressens. Et ce que j'ai compris, c'est que pour transformer cette trame de souffrance, il fallait justement faire l'inverse de ce que fait la fausse lumière. C'est-à-dire, il ne faut pas ignorer la souffrance, au contraire, il faut aller au cœur de la souffrance. Il faut accepter en nous toutes ces parties qui souffrent. Et il faut les accueillir. Et il faut leur donner de l'amour. Et là, ça se transforme. Et là, ça devient de l'or. Et j'invite chaque personne à le faire pour soi-même, mais j'invite aussi, et ça c'est le plus dur, de le faire avec les autres. Pourquoi c'est dur avec les autres? Parce que, comme je l'expliquais au début, il y a ces problèmes de charge émotionnelle. C'est-à-dire que pour faire avec les autres, alors évidemment, moi, je peux le faire dans le cadre de mon travail thérapeutique, bien sûr, parce que je ne suis pas impliquée émotionnellement avec les personnes que je reçois. Voilà pourquoi, d'ailleurs, c'est plus facile d'aller voir des thérapeutes que de le faire même entre amis, même si on en parle, parce que quand même, c'est bien fait, ces charges émotionnelles, c'est tellement puissant qu'on peut arriver à des blocages assez facilement, quoi.
Ce que tu dis, c'est ça, c'est le thérapeute est là aussi, par un œil neutre, pour accompagner les personnes qui sont sur cette démarche d'être dans l'acceptation de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent.
Je pense que n'importe quel être humain a envie de sortir de la souffrance. Hein. Donc voilà. Après, c'est vrai que quand on sort de la souffrance, ben, il se passe des choses encore plus grandioses qu'on a du mal à imaginer. Mais c'est vrai que personne n'a envie de souffrir, quoi. Ce que je voudrais parler aussi, c'est de l'histoire de pleurer. Je tiens vraiment à revenir là-dessus. Je vais expliquer pourquoi. Parce que comment ça se fait au niveau de notre corps physique que toutes ces mémoires émotionnelles, c'est-à-dire absolument tout ce qu'on a vécu, est inscrit dans notre corps. Tout, du moment où on a été conçu jusqu'à maintenant, tout est inscrit dans notre corps. Et c'est vrai que ce qui se passe, c'est que quand il y a de la souffrance, bon, on le voit d'ailleurs, plus les corps vieillissent, plus des fois la souffrance, elle est visible, mais plus aussi, bon, il y a les maladies, il y a tout un tas de choses, le corps, il va exprimer tout ça. Mais une des façons de libérer le corps de ses mémoires, c'est de pleurer. Pourquoi ? Parce qu'on sait que l'eau a la capacité de se charger des mémoires qu'on lui donne. Et comme dans le corps, il y a un pourcentage d'eau de plus de 75%, il est évident que tous les liquides que nous avons dans le corps, que ce soit le sang, la lymphe, tout ça, ça porte en fait toutes nos souffrances émotionnelles. Donc, c'est pour ça que moi, j'incite les personnes à pleurer. Et moi, dès que je peux pleurer, je pleure. Et j'ai mis des années à comprendre. Hein. J'ai passé 35 ans sans pleurer, quoi, pratiquement. Hein. Et puis, j'ai compris à quel point c'était libérateur, justement. Mais aussi, quand c'est fait avec cette conscience de dire, ben, j'accepte, j'accueille cette souffrance, je la libère, je lâche. Après, vraiment, ça guérit. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est la guérison. C'est pas d'aller mieux. C'est de guérir, c'est de se libérer, c'est voilà, et ça on peut le faire tous chaque jour.
Nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Dans la définition de l'éveil, est-ce que tu pourrais apporter le mot de la fin pour nos auditeurs ? Alors, à savoir bien sûr que l'éveil n'est pas une fin en soi, puisque ça reste une continuité de parcours, mais ça peut aussi être un objectif pour certains. Quel pourrait être le mot de la fin que tu pourrais accorder, apporter?
Moi, je pense que justement, cet éveil actuellement, puisqu'on est quand même dans une fin des temps, et que cet éveil est collectif, on est tous amenés justement à le vivre, et que pour ça, chacun doit faire sa petite part, parce que c'est vrai que quand on regarde le monde tel qu'il est, nous sommes conditionnés pour nous sentir coupables et impuissants. Alors qu'en fait, c'est tout à fait l'inverse. Nous sommes des êtres puissants. Et notre puissance, elle peut être là. Elle peut être justement à accepter d'aller un petit peu à l'inverse de tout ce qu'on nous a appris ou de tout ce qu'on nous apprend. Et cet inverse, c'est aimer ce qui n'est pas aimable. C'est-à-dire, c'est d'aimer la souffrance. Et c'est de donner de l'amour à la souffrance chaque fois qu'on la rencontre. Que ça soit en soi, que ça soit avec d'autres personnes, que ça soit avec des animaux, que ça soit... Voilà, donner de l'amour à la souffrance. Et ça, plus on sera d'humain à le faire, plus cet éveil, il sera rapide. Et moi, je n'ai pas de date pour ça, mais je pense qu'on est tous amenés à chacun faire notre pas dans ce sens-là. Voilà le mot de la fin.
Amaya, tu es avant tout thérapeute, en plus d'être auteur. Et les personnes peuvent te retrouver par le biais de ton site internet. Alors je rappelle, reiki-eft.fr. Mais également sur ta page Facebook. On peut te contacter directement par téléphone au 07 87 96 32 37. Et pour ceux qui seraient intéressés pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Amaya, elle se fera un plaisir de vous apporter le plus d'informations possible. Si vous êtes intéressé par son livre « L'inconscient et l'éveil », vous pouvez le retrouver sur le site lulu.com. Et également sur le site reiki-eft.fr. C'était Daniel en compagnie d'Amaya Martré pour nous parler de son livre « L'inconscient et l'éveil ». Un grand merci à Amaya d'être venue pour parler avec tant de bienveillance et tant de cœur et tant de sincérité.
Merci à toi Daniel de m'avoir reçu. Merci beaucoup.
Je vous souhaite à tous du sourire dans votre tête et du soleil dans votre cœur. Et je vous dis à très vite.